Bonsoir, autre radio, autre culture. Ce soir, nous abordons un sujet excessivement difficile qui est le handicap et l'école. Pour cette émission, ce débat, nous recevons Romain Bourdoulous. Bonsoir Romain.
Bonsoir.
Olivier Gilles.
Bonsoir.
Qui est orthophoniste.
Oui.
Christophe Barran, qui est proviseur du lycée Émile Dubois.
Bonsoir.
Marie-Luce, qui est grand-mère d'un garçon de 15 ans, handicapé.
Bonsoir.
Notre Mélanie Herbert, nationale psychanalyste.
Bonsoir.
Et c'est Golène Le Boulicot, qui travaille dans une association pour handicapés.
Bonsoir.
Alors ce soir, donc, nous abordons ce thème du handicap et l'école. Alors, pourquoi un tel souci de vouloir en débattre? Parce que la situation est toujours difficile. On n'arrive même pas à savoir combien il y a de handicapés enfants et adolescents en France. Mais visiblement, c'est plus du million. Là, le chiffre est assez énorme. Et on s'aperçoit qu'il y a plus de 28 000 enfants qui ne sont pas encore scolarisés au niveau du handicap. Ils sont en dehors de toute structure. Alors, il y a eu des efforts de fait. On sait que depuis, il y a eu une loi d'orientation de 1975 qui a obligé une scolarisation pour les enfants handicapés, loi qui n'a jamais été suivie. Et il a fallu attendre 30 ans pour qu'une autre loi soit sortie, la loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et en même temps, ils ont mis en place une circulaire pour la scolarisation des élèves handicapés dans les établissements du second degré et développement des unités pédagogiques d'intégration qui sont les UPI. Alors, je vais d'abord poser la question à Christophe Barran. Quel est actuellement, par exemple, dans votre établissement, l'effet de cette loi de 2005 ?
L'effet est fort simple, c'est une loi quand même qui a été assez pédagogique, puisque d'une situation d'intégration officieuse, nous sommes arrivés dans une situation d'intégration obligatoire. Donc le point, je dirais, fort de cette loi, c'est de pouvoir dire que, du point de vue pédagogique, que c'est la loi, et que la loi doit s'appliquer, que les enfants et les parents, surtout d'enfants handicapés, ont les mêmes droits que les autres citoyens de ce pays, payent les mêmes impôts, à partir de ce moment-là, payant les mêmes impôts, ils ont le même droit de scolarisation de leurs enfants. Ce qui, pour nous, chefs d'établissement, est un élément important, puisque ça nous a permis de justifier, voire parfois de légitimer, l'intégration des jeunes handicapés dans nos établissements scolaires. Et ça pose le problème par la loi, comme c'est une obligation que ces enfants sont affectés par les inspecteurs d'académie dans nos lycées, après, bien sûr, une évaluation de la maison du handicap, et que ces affectations sont prioritaires sur la base de la proximité d'abord de l'établissement, nous sommes obligés maintenant de devoir gérer le problème et donc de le voir. À partir du moment où nous sommes obligés de le voir, nous pouvons le traiter et commencer à aborder réellement l'intégration par la loi, par le respect de la loi de ces jeunes handicapés et de leur donner les mêmes droits qu'aux autres enfants. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet d'avancer. Maintenant, ça posera, on en parlera peut-être tout à l'heure, un certain nombre d'éléments, de problématiques. Je pense que parfois ça peut être contre-productif parce qu'il faut voir comment les choses sont dosées. Et puis ça pose un problème aussi dans notre institution scolaire de reconnaître ce que nous ne voyions pas jusqu'à maintenant, que nous refusions peut-être de voir. Et à partir du moment où nous voyons les choses, d'abord, ça peut avoir un élément important pour l'intégration de ces jeunes, mais c'est très important, on constate, pour nos élèves, de découvrir quelque chose qu'ils ne voyaient pas, et puis à partir de là, de pouvoir comparer leur situation. Et on a, d'une manière générale, j'ai toujours vu, moi, au niveau des élèves, des réactions assez positives, enfin même positives, pour le groupe classe qui accueillait un élève handicapé. Ça a toujours été un apport positif. Alors j'espère que c'est toujours été un élément positif pour l'élève handicapé, pour le jeune handicapé, mais bon, c'est pour les établissements scolaires, c'est au moins une obligation de voir un problème, et de devoir le gérer parce que c'est la loi. Et au moins, ça, c'était un point fort, et cette loi, aujourd'hui, est appliquée. Alors, bien sûr, ce n'est pas parfait, hein. Il y a bien des problématiques, hein, du point de vue quantitatif, du point de vue image, du point de vue intégration, du point de vue préparation, du point de vue moyen, mais au moins, ça se mérite là. Donc, pour nous, ça a été, je pense, une loi très, très importante.
Alors, quels sont les handicaps les plus difficiles à pouvoir accepter dans une école, qui posent le plus de problèmes, je veux dire, au niveau aménagement ou alors au niveau éducation
Je ne sais pas s'il y a des handicaps qui sont plus difficiles les uns que les autres. Bon, il y a des handicaps qui sont faciles à reconnaître. Bon, maintenant, il y a des handicaps qui sont qui nous renvoient une image parfois difficile à gérer. Je dirais que les handicaps moteurs ou les handicaps, le handicap visuel ou le handicap auditif sont presque des handicaps, je dirais presque simples. Manifestement, le handicap qui est le plus difficile à faire passer, c'est le handicap mental. Le problème du handicap mental, manifestement, remue au tréfonds des personnes qui ont à le gérer ou qui le voient pour la première fois ou qui le rencontrent pour la première fois, des choses qui sont difficiles, aussi bien au niveau de notre institution, même si politiquement notre institution est claire dans le sens où c'est la loi et nous devons appliquer la loi, et ça a été sur l'Académie Cap Paris quelque chose d'assez affirmé au point que nous avons peut-être un peu avancé du point de vue des structures. Maintenant, nous l'avons constaté, nous, l'an dernier, quand nous avons monté une UPI pour élèves handicapés mentaux sur le lycée Chamière Malézieux. Manifestement, au niveau de l'Académie, la problématique de poser le handicap mental était une problématique qui faisait peur. Et ça n'a pas été si simple, d'abord parce que nous ne connaissons pas grand-chose du handicap mental, d'une manière générale. En plus, il y a de l'inconscient derrière tout cela et des choses qui remuent, qui gênent, qui peuvent déranger. Et finalement, quand on regarde la réalité de ce qui nous a été demandé comme intégration du handicap mental, ça a été, bon, Romain peut peut-être en parler parce que Romain les côtoie aujourd'hui dans son établissement, parce que je crois qu'il y a 5 élèves handicapés mentaux intégrés dans son établissement, ça a été beaucoup plus simple parce qu'à partir du moment où on s'est rendu compte de ce que pouvait être le handicap mental. Tout de suite, on pense en termes les fous, alors que ce n'est pas cette problématique-là qui se pose à travers le handicap mental, obligatoirement. Donc c'est un problème de manque de connaissances qui fait plus peur qu'autre chose. Et on a constaté ou des phénomènes d'hésitation, je ne dirais pas de phénomènes de rejet, mais au moins des phénomènes d'hésitation de la part de nous, de notre part en tant que chef d'établissement, avant de se lancer dans l'installation d'une UPI handicapée mentaux. Nous, on l'a fait dans un lycée, ce qui était sur l'Académie de Paris la première fois, notamment dans un lycée professionnel. Il y avait des UPI handicapés mentaux dans les collèges, il n'y en avait pas pour des élèves qui avaient dépassé l'âge du collège et qui donc se retrouvaient en décrochage par rapport aux élèves de collège handicapés mentaux et qui, faute de structure et faute de capacité, possibilité d'accueil après le collège, se retrouvaient donc être maintenus. Donc ça a été un peu un mouvement qu'il a fallu créer l'an dernier, initié, et qui nous a interpellés en tant que proviseurs ou chefs d'établissement de lycée. Et ça n'a pas été immédiatement si simple. De même que constituer un réseau autour de cette UPI avec d'autres lycées n'a pas non plus été quelque chose de très très simple. Maintenant, je crois que ça commence à bien fonctionner. Les chefs d'établissement qui nous ont succédé, qui gèrent cette opération-là, ça fonctionne bien. C'est toute petite structure avec de l'accompagnement, aussi bien un professeur spécialisé pour le handicap qu'un AVS plein temps qui suit, et au cas par cas, des assistants de vie scolaire pour les différents niveaux du handicap. Mais ça reste quelque chose quand même d'assez embryonnaire. Il s'agit d'une UPI pour handicapés mentaux sur Paris qui se limite aujourd'hui à 5-6 élèves. C'est un début.
C'est un début, oui. Ségolène est en train d'acquiescer à toutes vos paroles. Et as-tu un mot à dire à tout ça ?
Oui, moi en fait, j'ajouterais juste pour aller dans votre sens que j'ai eu un témoignage d'une enseignante donc de CLIS, d'une école primaire de Paris, donc, qui racontait qu'au moment où la CLIS a été créée dans cet établissement, je crois que c'était l'année dernière, en fait, c'est pas tant le chef d'établissement qui n'était pas d'accord ou les enfants de l'école qui étaient un peu réticents, c'est les parents même des autres enfants qui ont même manifesté, en fait, quand ils ont appris qu'il y avait une CLIS qui allait s'ouvrir pour des jeunes handicapés mentaux, et qui sont allés voir la directrice et qui lui ont dit qu'ils ne voulaient pas de CLIS dans l'établissement de leurs enfants. Donc c'est évident que c'est un problème important, parce que finalement, de toutes parts, il y a des gens qui effectivement associent très vite le handicap mental, comme vous disiez, aux gens qui sont fous. Et c'est vrai que le temps de faire évoluer les mentalités, c'est pas
évident. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mélanie, de cela
Moi, je pensais qu'une des difficultés devait être la relation de l'enfant handicapé mental au savoir. Parce que vous parliez de l'inconscient. Qu'est-ce qu'un enfant handicapé mental va pouvoir apprendre? Où en est-il du savoir? Et comment ça s'inscrit son désir d'apprendre? Où ce qu'il sait, c'est-à-dire à un niveau inconscient, l'enfant handicapé mental, je pense, sait beaucoup de choses que les professeurs ne savent pas ou ont refoulées et se posent des questions que les enseignants ne se posent pas forcément. Donc je pense qu'il doit être dérangeant. pas seulement parce que ça fait référence au fou, hein, parce qu'au niveau du savoir, on sait encore très peu de choses de comment s'organise, comment peut-on apprendre, à partir de quel moment peut-on apprendre. Qu'est-ce qu'il faut avoir refoulé de l'inconscient pour qu'il y ait une place pour un savoir ordinaire d'école, par exemple.
Parce que je me tourne vers Olivier Gilles. Je sais que vous suivez Romain depuis quelques années. Et je connais Romain depuis qu'il est en CM2. Et en CM2, enfin ce qui était considéré comme un CM2, mais ils apprenaient à peine à lire, à peine à compter, on n'abordait que l'addition, il écrivait pas beaucoup. Et en fait, il n'y avait aucune volonté de vouloir leur faire apprendre plus, puisqu'ils n'arrivaient pas à passer le stade de l'addition 2 plus 5 ou 7 plus 6. Donc à partir du moment où ils n'arrivaient pas à aborder ces opérations-là, ou avec difficulté, on ne leur faisait pas aller plus haut. Alors c'est justement le problème de ces maladies qui sont peu connues finalement, c'est la taxie cérébelleuse. Qu'est-ce que cela pose comme problème justement pour par exemple des professeurs face à ce genre de handicap?
Il y a dans mon exercice une part d'intervention justement dans les écoles, non seulement pour donner un éclairage général sur le rôle de la motricité, les retentissements psychologiques, les retentissements intellectuels, sur la personnalité de l'enfant, sur le comportement que les autres élèves peuvent avoir vis-à-vis de lui, de surprotection ou d'agression, et inversement. Alors c'est vrai que quand j'entendais effectivement que créer une UPI pour handicapés mentaux, c'est un progrès, moi je suis confronté avec des parents d'enfants qui vont vers la MDPH, la maison du handicap, pour trouver une intégration scolaire, en réclamant leur dû. C'est terrible parce que moi, on me demande souvent de est-ce que c'est bien, est-ce que cette IME sera bien ou pas bien, etc. Intégrer pour intégrer sans avoir de projet de concret, et là je vous rejoins aussi au niveau effectivement du lycée, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Quel est le contenu? Ma question se pose en fait aussi, c'est pareil. Je veux dire, intégrer un enfant dans l'école du quartier, si j'ai affaire à une maîtresse qui freine des cas de fer, qui à elle-même vient d'avoir un enfant, qui a une vie, qui n'a pas envie de consacrer beaucoup de temps le soir à voir un orthophoniste ou à discuter régulièrement de l'enfant, concrètement j'ai affaire aussi à des gens qui ont une vie, des peurs, des craintes. Les parents ont aussi effectivement une vie, des peurs, des craintes. Alors c'est difficile après de trouver un chemin particulier pour chaque enfant.
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe, en fait?
Moi, j'ai un premier travail vis-à-vis de l'enfant qui est, notamment pour Romain, par exemple, de l'aider, de lui permettre de comprendre son handicap, petit a. C'est valable aussi pour un enfant, par exemple, handicapé mental, je pense. Est-ce que l'enfant comprend son handicap, sait quel est son handicap? Non. La réponse est non. En tout cas, il ne peut pas en parler, il ne peut pas... Alors, les professeurs ne savent pas qu'est-ce que c'est que le handicap de tel enfant. Quelles sont les répercussions que ça peut avoir par rapport à leur sphère à eux? Moi non plus, je ne connais pas, mais j'apprends. J'apprends beaucoup. Je travaille depuis un an avec des handicapés mentaux de 25-30 ans. Je trouve ça passionnant. Je trouve ça, c'est un domaine qui complète parfaitement. C'est pas du cervelet, c'est pas la branche noble de la neurologie. Le handicap, dans l'expérience médicale, le handicap mental, c'est l'exclusion, quoi. C'est l'exclusion dans l'exclusion, quoi. Je me rappelle de l'élaboration des QI. Les QI étaient faits pour standardiser l'apprentissage et pour évacuer des enfants qui, sous prétexte d'une définition par rapport à des tests, n'avaient pas le potentiel intellectuel pour suivre un groupe d'enfants qui, dans la courbe de Gauss, représenterait la majorité des enfants, qui donc devait être plus pratique pour pouvoir faire une éducation. Pour moi, pour un professeur, le handicap est une façon formidable d'apprendre et de généraliser des apprentissages à tous les autres enfants, d'ailleurs. Bon, c'est pas utopique, c'est très concret, quoi.
J'avais remarqué déjà avec Romain et avec d'autres enfants handicapés. Cela s'est concrétisé avec des lectures que j'ai faites exprès pour l'émission, où beaucoup d'enfants handicapés souhaitent avoir un mélange d'enfants valides et d'enfants non valides avec eux, parce que cela leur permet d'être sûr qu'ils ont une scolarité à peu près normale. C'est-à-dire qu'on ne leur fait pas une scolarité à 4 sous. Ils sont sûrs, comme ça, que le cadre de la scolarité, que les programmes sont bien suivis. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, M. Baron?
Je pense que ce qui a été soulevé est intéressant. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure que la loi, pour moi, me paraissait être un progrès. Mais je crois que la loi ne résout pas tout. à savoir que je le constate dans mon établissement aujourd'hui, nous avons donc 8 élèves handicapés dans notre établissement avec des handicaps divers, de la malvoyance en passant par un handicap moteur, en passant par des problèmes de dépression lourde. Cette intégration se fait sur la base, je vous le disais tout à l'heure, sur la base d'affectation décidée par l'inspecteur d'académie sur proposition de la maison du handicap, avec une priorité absolue dans les affectations, d'abord sur la proximité, mais bien sûr sur la base du projet. Or, dans notre établissement, nous préparons, entre autres dans le cadre de formation de la santé et du social, des jeunes à se diriger vers des métiers de masseur-kinésithérapeute. Ce qui intéresse assez les malvoyants, car c'est un métier qui peut leur être ouvert de façon importante. La problématique, c'est que, si vous voulez, vous allez avoir une concentration sur un seul établissement d'un type de jeunes qui vont, sur la base de leur projet, demander à venir dans l'établissement. Ce qui va poser plusieurs situations difficiles à gérer. La première situation, c'est de savoir, est-ce que le jeune qui va être intégré a été préparé à son intégration? Il sort d'un institut, généralement c'est l'INJA pour nous, l'Institut National des Jeunes Aveugles. Il va se retrouver du jour au lendemain, et c'est une volonté qu'il a eue, et on l'a ressenti avec Romain Bourdoulous quand on l'a intégré dans notre établissement, je sors d'une structure protégée, je vais dans une structure non protégée, où c'est une structure de masse par rapport à la structure d'où il vient. Donc il y a un phénomène d'inquiétude, il y a une volonté d'intégration pour faire valoir ses droits, effectivement pour avoir une formation comme les autres, être comme les autres, mais ça nourrit, ça entraîne chez l'élève handicapé qu'on intègre, des inquiétudes assez fortes. Deuxième point, il y a l'inquiétude de ceux qui vont le recevoir et qui ne sont pas obligatoirement préparés à le recevoir, et notamment au niveau des malvoyants, chaque malvoyant a sa typologie de handicap qui va nécessiter une adaptation pour les enseignants par exemple. Mais il y a aussi le problème du public dans lequel ces élèves vont être insérés. Les jeunes qui vont les voir arriver ne sont pas obligatoirement préparés comme on devrait en amont pour les amener à comprendre le handicap, ce qui peut introduire un certain nombre d'incompréhensions et de difficultés. Je veux avoir, et la famille est derrière, veut faire respecter ses droits, veut le mieux pour son enfant comme tout autre enfant, mais derrière la loi, on arrive aujourd'hui par son obligation, l'obligation de son application, à poser le problème, mais il peut y avoir d'autres éléments qui ne sont pas résolus. Les peurs, les inquiétudes, les compréhensions, ainsi de suite. Comprendre le handicap, pourquoi certains élèves ont besoin de certains documents particuliers et d'autres non, alors qu'ils sont considérés tous les deux comme malvoyants, enfin tous comme malvoyants, ce n'est pas facile à appréhender, aussi bien pour les enseignants que pour les autres autour. Et un élève malvoyant, par exemple, chez nous, est considéré comme un élève voyant, parce qu'il n'est pas aveugle. L'aveugle, c'est clair. Il ne voit pas, il doit se déplacer en mémorisant, en touchant et en tâtonnant. Le malvoyant se déplace un peu comme nous, quelque part. Pour autant, il est malvoyant. Et ça, tout le monde ne le perçoit pas. Ce qui veut dire qu'on a une situation où je veux être comme les autres, je suis intégré dans une structure à égalité avec les autres, mais je ne suis pas vraiment comme les autres. Et les autres le voient intégré comme quelqu'un comme eux, sans prendre la dimension de « il y a quand même une différence ». Ce qui amène des situations parfois d'incompréhension et parfois, nous l'avons vécu cette année, une situation de conflit entre deux élèves, conflit standard, de malveillance entre deux jeunes, qui peut arriver, hein, et l'élève, entre guillemets, standard, normal, ne perçoit pas la différence et réagit comme si la malvoyante était à égalité avec elle. Et il y a conflit. Or, il y en a une qui est réellement handicapée quand même et qui ne peut pas réagir et se protéger. Or, nous sommes dans une structure de 700 élèves où nous ne voyons pas tout, nous ne sommes pas partout, ce n'est pas une structure protégée et il peut y avoir des conflits. Et là, on peut avoir des difficultés. Et c'est là où la loi... elle a un avantage, mais ne pose pas tous les problèmes et ne cherche pas à les résoudre. C'est pas très très simple toujours. Après, enfin, on va avoir par la mise en application de cette loi et sa généralisation, ce qui est une bonne chose, à réfléchir sur son mode d'application, son mode de mise en application. Et ça, on commence à aborder cette question-là parce que il y a quand même un mouvement et il y a une intégration réelle.
Alors avant d'avoir le témoignage de Romain, Mélanie, tu as une chose à ajouter, ainsi que Ségolène.
Oui, sur le « je veux être comme les autres », je pensais qu'on valorise beaucoup cela, être comme les autres. Mais j'écoutais Olivier qui parlait de Romain. L'important aussi est de savoir « je ne suis pas comme les autres » d'abord. Et je crois que les parents préfèrent le je veux que mon fils ou ma fille soit comme les autres plutôt que il n'est pas comme les autres. Et je crois qu'il est très important que l'enfant intègre qu'il n'est pas comme les autres et ensuite il peut faire beaucoup de choses. Et puis il y avait ce je veux être comme les autres qui est déjà extrêmement élaboré, c'est-à-dire que je suppose qu'il y a des je sais qu'il y a des handicapés mentaux qui ne pour lesquels les autres n'existent même pas. C'est-à-dire que je veux être comme les autres, c'est déjà une phrase très élaborée, parce que les autres existent.
Ségolène.
Oui, moi je voulais revenir à ce que vous disiez par rapport à la façon dont les enfants handicapés sont accueillis dans les établissements, parce que, moi je vais surtout parler des CLIS, hein, puisque surtout avec les enfants qui sont en CLIS que je travaille, un peu naïvement, je pensais en fait au départ que les enseignants qui enseignaient en CLIS étaient forcément formés en fait pour s'occuper des enfants, en l'occurrence, bon là c'est des enfants handicapés mentaux, et en discutant avec les enseignantes, en fait je me suis aperçue que pas du tout, elles étaient mutées là en fait sans vraiment avoir le choix, et qu'après, éventuellement elles pouvaient demander à faire une formation pour être enseignante spécialisée, ce qui fait que effectivement, du coup les enfants se retrouvent peut-être avec des adultes qui savent pas vraiment comment appréhender leur handicap. En plus, c'est d'autant plus difficile, je trouve, qu'ils ont un groupe d'enfants plus réduit, puisque généralement, ça va pas au-delà de 12 enfants, mais ils ont des âges très très différents, ça peut aller de 5 à 12 ans, et en plus, avec des handicaps très très différents. Enfin, là, je parle vraiment pour le handicap mental. Et c'est certain qu'il va falloir, d'une part, peut-être que les enseignants soient vraiment formés, et puis après, il y a effectivement cette difficulté du handicap mental, où les handicaps sont vraiment tellement différents, que ça mériterait en fait un enseignant par enfant, presque, pour que il s'adapte à chaque fois au type de handicap de l'enfant.
Oh, Romain, moi j'aimerais bien t'entendre parler. Tu as justement intégré un lycée professionnel. Quelle a été justement ta réaction quand tu as pénétré dans cet établissement pour la première fois? Et la première année, comment ça s'est passé?
La peur de ne pas être accepté. Et puis La peur de ne pas être accepté par rapport au prof aussi.
Ça, c'était ton grand problème?
Ouais.
Pourquoi? Beaucoup.
Parce qu'ils ne connaissent pas ce handicap. Ils connaissent aucun handicap pour moi. Et puis, ils ne cherchent pas à aller plus loin.
Alors, pour nos auditeurs, il faut savoir que Romain est un grand et beau garçon. Et que, effectivement... pour beaucoup de gens, personne ne le voit, son handicap. Et ça lui pose énormément de problèmes, d'après ce que j'ai compris, vis-à-vis de ses professeurs et même vis-à-vis de ses camarades de classe.
Oui, beaucoup.
Et ça se traduit comment?
Je ressens... Il y en a, ils viennent même pas me parler parce que ils acceptent pas le handicap ou... Je ne sais pas, ils n'aiment pas les handicapés. Je n'ai pas compris moi-même, mais bon, ça doit être ça, je pense.
Alors, je sais que tu avais été à un moment très très marqué par le fait que les jeunes de ta classe ne voulaient pas te serrer la main.
Oui, beaucoup, parce que c'est la politesse, et puis la politesse, ça se fait avec tout le monde, un handicapé y compris.
Est-ce que ça s'est arrangé maintenant?
Oui, oui, un peu plus. Heureusement d'ailleurs.
Marie-Luce, on ne vous a pas encore laissé parler. Vous êtes la grand-mère d'un jeune garçon de 15 ans qui, lui, est en établissement spécialisé.
Alors, il a commencé à être scolarisé en maternelle, dans une classe spéciale, dépendant d'un institut spécialisé, mais qui était à l'intérieur, dans les murs d'une école ordinaire, et donc, notamment, les récréations étaient en commun. Et c'était formidable. Moi, j'ai trouvé ça formidable, parce que c'était justement une intégration, mais en tenant compte de la différence. Parce que je trouve très très bien, magnifique, qu'il y ait une loi pour l'intégration des handicapés, mais... j'ai envie de dire, on est tous différents là autour de la table et les handicapés, ils sont tous différents. Comment intégrer tous les handicapés dans des structures standards quand même, enfin faites pour des masses d'élèves? Ça me paraît un peu illusoire. parce que chaque enfant handicapé a des capacités mentales, cérébrales. Moi, au début, quand on a vu mon petit-fils, on a cru qu'il était complètement idiot. On dit, bon, ben, il est débile, il est, etc. Et puis, on apprend sur le tas. Et on s'aperçoit que ben, c'est un Lancelot, c'est un petit garçon qui est handicapé, mais qui est tout à fait particulier. Il a des grandes qualités et puis des handicaps. Mais il a fait énormément de progrès. Grâce à cette scolarisation spéciale, eh bien, il a atteint un niveau qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire qu'il sait lire, il sait écrire, il parle grâce aux orthophonistes. Il est en fauteuil, hein, mais il marche quand on l'aide à marcher. Il s'habille, il commence à se s'habiller, à se déshabiller tout seul, ce qui lui demande évidemment beaucoup d'efforts, mais il apprend. Et je pense que dans la vie, l'essentiel, c'est d'avancer, c'est de progresser. Mais chaque enfant progresse différemment. Et le seul témoignage que j'ai entendu d'une petite copine, justement, de mon petit-fils, qui avait un très bon mental et qui a été scolarisée dans un établissement de l'éducation nationale, enfin ordinaire, eh bien, les parents ont fait marche arrière et elle est retournée dans un établissement spécialisé parce que ça crée un déséquilibre et il y avait une surprotection. Ça aurait pu être l'inverse, mais elle était surprotégée et finalement, ça n'a pas été positif. Voilà.
Est-ce que lorsqu'on a des enfants justement handicapés, l'évolution par rapport à ce que vous pouvez leur apporter comme orthophoniste, elle est constante? Est-ce qu'elle peut être continue jusqu'à ce qu'ils soient adultes ou même bien avant, enfin bien après?
Elle est continue. Dans le cas de Romain, son handicap, vous pouvez le recréer ce soir ou dans la journée en prenant 4 ou 5 verres de whisky. Vous aurez ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux provoqué par l'alcool. L'alcool attaquera votre cervelet et vous aurez donc une démarche ébrieuse, vous aurez une parole ébrieuse, vous aurez une difficulté à mettre correctement la clé dans la porte. Vous aurez au niveau affectif soit une inhibition, soit une désinhibition. Vous serez soit beaucoup plus fluent verbalement, soit vous serez beaucoup plus muet. Vous pourrez vous faire arrêter par la police, ce qui arrive souvent aux handicapés qui ont un syndrome cérébelleux. Vous pourrez aussi avoir une hyper-agressivité ou une hypo-agressivité. Un alcoolique peut être très agressif ou au contraire être très, 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 très limité dans son agression. C'est ce qui arrive à un enfant qui a un syndrome cérébelleux, qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Le but de l'éducation et de la rééducation, et c'est vrai qu'on apprend toujours, c'est de, à mon sens, c'est de mettre la personne, c'est tutoriser la personne pour la mettre en situation de difficulté qu'elle puisse franchir, des obstacles qu'elle puisse franchir. Ça lui permettra d'abord de mettre en œuvre des moyens de résoudre ses difficultés et deuxièmement de mieux connaître ses difficultés. Une situation complètement normale ne permet pas à la personne qui a un handicap, par définition, de franchir cette situation. Mais elle ne permet pas non plus à la personne qui a un handicap de connaître son handicap. Si vous aiguillez la personne sur une situation qui sera légèrement déviée, vous allez mettre une difficulté peut-être en plus, même pourquoi pas d'ailleurs, par rapport à une situation normale, vous allez engendrer chez la personne une réaction, un comportement de réponse dont il va se rendre compte et qui va se dire bah, finalement, oui, j'ai... Moi souvent, les parents ou les conjoints me disent mais ce que vous faites faire à mon patient ou à mon frère, à mon enfant, mais une personne normale ne pourrait pas le faire. Oui, c'est vrai. Très souvent, oui, c'est vrai. Moi, ce qui m'importe, c'est que justement, cette personne qui a un handicap en situation peut-être plus difficile va mettre en œuvre des solutions qu'elle pourra généraliser à d'autres situations. Donc ça, c'est... si on réfléchit par rapport au cervelet, par exemple, vous apprenez demain à faire du billard français avec 3 boules, vous apprendrez, vous mettrez en œuvre votre cervelet. Les Américains disent, pour du cerveau, use it or lose it. Utilisez-le ou vous le perdrez. C'est le seul organe humain qui, aujourd'hui, dont on sait, en tout cas aujourd'hui, qui correspond à ça. Autrement, le foie, tous les autres organes, si vous les utilisez, vous les usez. Donc, cet argument-là, il y a aucune limite à cet argument-là, ni d'âge, ni de... Alors après, c'est très difficile de trouver des situations qui vont mettre la personne au travail.
Comment on peut expliquer ces périodes de brillance intellectuelle chez Romain qui peuvent se suivre avec des baisses comme ça? Là, c'est difficile.
Comment expliquez-vous qu'une personne qui boit... Non, c'est une comparaison est idiote, mais d'ailleurs, en fait, on peut aussi d'ailleurs ne pas culpabiliser personne qui boit. Hein, pourquoi pas d'ailleurs. Il n'y a peut-être pas forcément de honte non plus à être comparé à quelqu'un qui boit. Mais en tout cas, une personne qui effectivement aura une personne qui boit aura quelquefois des passages où elle boira beaucoup moins. Elle sera dans un état bien meilleur que. J'ai pas la réponse.
Voilà. Moi, il m'a fasciné par moments. J'avais par moments un Romain qui était complètement... j'avais presque l'impression d'avoir un surdoué avec moi. Et le lendemain, terminé, quoi. Il n'y avait plus rien.
Alors, dans le cas du cervelet, vous savez que si vous faites un apprentissage, vous apprenez à faire du vélo, par exemple, votre cervelet vous sert au départ à coordonner vos gestes. Puis progressivement, au fur et à mesure que vous faites du vélo, la coordination se passe du cervelet au cerveau. C'est-à-dire que le cervelet ne rentre plus en jeu. Arrêtez le vélo pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, vous reprenez le vélo, vous aurez un petit peu de mal à refaire du vélo, mais ça ira très très vite. Vous allez retrouver très rapidement vos capacités. C'est pareil pour quelqu'un qui a un syndrome cérébelleux. C'est pareil, mais sauf que c'est beaucoup plus enfoui. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus ramer si vous recommencez au bout de 10 ans. La solution, c'est la façon d'apprendre. Si vous avez un apprentissage très divers, et non pas répétitif, mais qui va légèrement varier à chaque fois, vous allez ancrer les apprentissages de façon beaucoup plus profonde. Alors évidemment, il faut réfléchir, il faut se poser des questions, il faut créer. Mais ça permet de consolider les choses. Alors pour répondre à votre question, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ma problématique à moi, c'est de savoir qu'est-ce que je peux planter, qu'est-ce que je peux semer pour que l'apprentissage soit pérenne et stable.
Alors juste, moi, je réponds un peu sans répondre, bien sûr, que tout le monde a des moments où il est brillant et tout le monde a des moments où il est moins brillant. Simplement, pour Romain, apparemment, ce que tu dis, Marion, c'est qu'il y a de grandes différences.
Oui.
Hein? C'est-à-dire que le sujet n'est pas toujours présent. Nous, en tant que sujet, chacun de nous n'est pas toujours présent de la même manière. Ça, c'est normal. Mais on a quand même une certaine constance. Apparemment, là, ça ne pourrait pas se maintenir. Donc, on pourrait le penser, si on essaye de penser, à partir de ce que tu dis, par des relations, par exemple, en psychanalyse, on a des topologies maintenant où il y a des relations entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Et ça, il faut que ça se tienne d'une certaine manière. Bon, alors, il y a les symptômes qui font tenir. Enfin, il y a toute une topologie. Et je pense que dans cette topologie, on pourrait arriver à penser un petit peu ce que tu dis là. Mais bon, je ne sais pas comment. Enfin...
À propos des variations, vous avez vous-même, quand vous vous tenez debout, des variations d'équilibre. Vous oscillez autour de votre position d'équilibre, personne ne le voit. La personne qui a un syndrome cérébelleux va osciller, mais de façon beaucoup plus importante. Et là, c'est un phénomène qui est complètement normal, mais qui est très exagéré, va se voir beaucoup plus. Bah, je ferai la comparaison par rapport à vous, qui avez probablement effectivement des jours hauts et des jours bas. Sauf à être très proche de vous, on va difficilement les percevoir. Peut-être aussi que c'est votre regard qui... Comment dirais-je, enfin, les variations sont réelles, probablement chez Romain, mais vos attentes sont importantes. Et donc, attendre une réussite, c'est fort. Après, tout d'un coup, on a une instabilité, on a une descente. Alors, il y a des théories qui disent que ce sont aussi des phases de récupération, des phases où on va, qui sont nécessaires, où la personne va bouleverser ses savoirs pour en créer de nouveaux. Ça me paraît séduisant.
Tout à fait, c'est le rapport à l'autre qui induit la demande. Par exemple, ta demande par rapport à Romain peut l'inhiber ou au contraire. C'est-à-dire que ça ne se situe jamais seul, ça se situe dans le rapport à l'autre. Et donc, c'est intéressant de voir que là, il y a des moments peut-être où ta demande n'est pas la même, ou s'il a fait quelque chose de bien la fois suivante, tu attends quelque chose de bien, c'est peut-être pas possible, justement.
C'est le fait qu'on puisse lui faire, par exemple, en mathématiques, hein, des systèmes d'équations parfois compliqués. Et le lendemain, c'est fini. Mais ça reviendra 2 mois après.
Alors, il y a une sensibilité à la répétition. Vous l'avez vous-même, vous d'ailleurs, en fait, cette sensibilité à la répétition. Conduisez sur l'autoroute, c'est une situation effectivement où il y a peu d'accidents, mais une situation très, très monotone de répétition peut provoquer aussi une certaine fatigue, une certaine usure. Vous allez y être peu sensible. Quelqu'un qui a un syndrome cérébelleux, il sera beaucoup plus sensible. Quelqu'un qui a un syndrome cérébelleux ne supporte pas la médiocrité d'un apprentissage répété. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus sensible. C'est très difficile aussi de percevoir. Il y a probablement des variations, probablement aussi de votre part, très probablement. Mais alors de les analyser et de comprendre pourquoi est-ce que cette situation s'est modifiée et qu'est-ce qui a été modifié pour quelques années, ou peut-être aussi plusieurs syndromes cérébelleux, pourquoi pas. Là, quand on parlait de ça aussi, c'est aussi intéressant pour un professeur ou pour un professionnel d'avoir affaire à plusieurs personnes qui ont le même handicap. Et comme vous disiez, pourquoi telle personne handicapée visuelle aura besoin d'une aide cognitive et l'autre pas? Oui, effectivement, ça s'apprend, ça va pas forcément s'apprendre par une formation, hein. Ça va s'apprendre par une expérience. Et là, l'intérêt de voir plusieurs personnes qui ont un même handicap. Moi, je me suis formé comme ça, hein. Il n'y a pas d'autre formation, il n'y a aucune formation en France sur les syndromes cérébelleux, en termes d'éducation, d'apprentissage, et de cognition, de mémoire, d'attention, aucune.
Alors moi, j'ai travaillé avec, pas des enfants comme Romain, mais des jeunes, des tout petits. Hein. Je me suis posé la question si ce phénomène, justement au niveau du cervelet, ne pouvait pas se retrouver dans pas mal d'enfants dans les CP, CBE1, qui n'ont pas du tout été identifiés, que l'on n'a jamais mis à jour.
On sait aujourd'hui qu'il y a un rôle du cervelet, grâce à une imagerie fonctionnelle, dans tous les apprentissages moteurs. Il y a un rôle du cervelet dans quand vous êtes skieur et que vous préparez une descente à ski. Le chrono n'est pas encore commencé, vous n'êtes pas encore parti. Vous refaites la descente avec des mouvements minimaux, tout en restant assez figé. Mais vous faites les micro-mouvements que vous allez avoir à faire. Ça joue un rôle, le cervelet est en action. Là, au moment où vous m'écoutez, votre langue est en train de refaire à minima exactement les mêmes mouvements que je fais avec ma langue. Et ça participe à votre compréhension. On sait ça grâce à la schizophrénie. On sait que les schizophrènes ont justement une dysfonction de ces neurones miroirs et qui se mettent en route tout seuls, d'où les hallucinations auditives, verbales. On sait aussi, on va dire à peu près 40% des cas de dyslexie, qu'on a une dysfonction cérébelleuse. Ce qui peut expliquer aussi, chez le dyslexique, des difficultés de motrice, d'agilité. Voilà. Point barre. Après, pour essayer de modéliser plus en avant la compréhension de tel enfant... Mais dans l'apprentissage, le cervelet est essentiel, effectivement. C'est passionnant, d'ailleurs.
Alors, on va en revenir au handicap en général. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu du handicap de Romain, parce que ça a été particulièrement difficile, justement, au niveau de la scolarisation. Romain, est-ce que tu veux aussi nous dire un petit mot du parcours du combattant de tes parents pour arriver à avoir une scolarisation normale ?
Ça a été très dur parce que déjà il y a certains profs et certains directeurs qui ne voulaient pas que je fasse un cursus normal. Ils voulaient plutôt me mettre sur une voie qui n'arriverait pas là où j'en suis en ce moment. Donc ça serait plutôt une voie un petit peu comme une voie de garage. Ça serait, j'aurais même pas le niveau de troisième, encore moins, peut-être pas de sixième non plus. Donc je ne sais pas où j'en serais.
J'ai des souvenirs où justement après le CM2, on voulait, l'établissement voulait te mettre en institut spécialisé puisqu'il pensait qu'il n'y avait rien à faire. Donc tu as fait une sixième, une cinquième, une quatrième, une troisième normale. Tu as passé ton BEPC et maintenant tu es en deuxième année de... Vas-y, dis-le-moi.
BEPMSMA.
Oui, mais...
Maintenant, c'est des systèmes mécaniques automatisés.
Voilà, c'est pas facile.
Non.
Hein? Il y a des problèmes, surtout en dessin, parce qu'effectivement, tu as des problèmes locomoteurs pour dessiner des lignes droites, etc. Mais tu t'accroches. Alors, je sais que ses parents se sont énormément battus. Est-ce que les parents de votre petit-fils se sont battus pour une scolarisation ?
Pas du tout, puisque quand ma belle-fille est arrivée, les parents sont séparés. Ils se sont séparés assez vite. Mais ils s'occupent tous les deux de leur fils. Et quand ma belle-fille est arrivée à Dijon, elle a eu connaissance donc, de cette école maternelle dont je parlais tout à l'heure. Et moi-même, je suis allée voir le directeur pour le rencontrer et je lui dis, mais écoutez, c'est merveilleux que Lancelot ait trouvé une place si vite à l'école. Moi, je pensais que c'était très difficile. Et il m'a répondu, mais madame, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l'école. Donc ça n'a pas été difficile. Et ensuite, une fois qu'il était dans l'engrenage, eh bien, après, je crois que les établissements sont obligés de trouver une place pour la suite. Et son cursus s'est développé sans problème, avec des classes spécialisées. Et surtout, l'intérêt que j'ai vu dans cette institution, qui est importante, ça s'appelle le Clos Chauveau à Dijon, c'est assez connu. L'intérêt, c'est qu'ils ont... Il a eu une scolarité presque normale, enfin on va dire, mais un peu plafonnée. Et dans l'emploi du temps était intégrée l'intervention de tous les spécialistes, de tous les ergothérapeutes, le kiné, etc. C'est inclus dans la journée de travail des enfants. Ils ont un peu moins de vacances, mais ils ont le bénéfice d'avoir tout sur le même site.
Moi, j'ai eu des exemples de parents qui ont sorti leurs enfants de l'école. Bon, c'était caricatural, c'était une maman qui voyait son enfant tous les jours, son appartement était situé au-dessus de l'école, elle voyait l'enfant tout seul pendant toutes les récréations dans la cour, et elle savait pertinemment que l'AVS, l'aide à la vie scolaire, servait beaucoup plus d'aide générale à toute la classe qu'à son enfant. Et la maîtresse était débordée, elle estimait ne pas pouvoir apporter grand-chose à cet enfant. Donc ces parents-là, dans un cas de détresse comme ça, ils se disent, mais non, c'est pas possible. Quand un enfant a 4 ans, 5 ans, 6 ans, il faut que je bouge, il faut que je le sorte, il faut que je vais emmerder la MDPH autant de temps qu'il faudra, mais on va trouver une solution. Donc sortir de la normalité, ça peut être aussi une requête, effectivement, et sortir d'un contexte normal.
Alors on s'aperçoit que justement dans l'intégration scolaire de tous ces handicapés, la mère joue un grand rôle. En fait, la mère a plus de 78%. Et pousse son fils, et pousse, en fait, se démène pour arriver à ce que l'enfant soit ou scolarisé, ou avoir une meilleure éducation possible. Alors que le père, lui, ne s'investit qu'à même pas 14%. Alors ça serait dû à quoi, à ton avis ?
Je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Enfin, pour le père de Lancelot, par exemple, il s'investit énormément pour le soutien de son fils et pour s'en occuper.
Donc ils apportent, le père et la mère apportent beaucoup l'un et l'autre, mais des choses très différentes. Sa mère va plus le protéger, lui fiche la paix, entre guillemets, quand il rentre de l'école. Bon, il a un ordinateur, évidemment, il peut jouer et faire tout ce qu'il veut dessus. Alors que son père va lui fixer, comme disait monsieur, dont j'ai oublié le nom, des épreuves. Il le met en situation de difficulté et ce qui le fait avance énormément. Un jour, il a marché tout seul, croyant que son père le tenait. Et il a fait 2-3 pas.
Il fait peut-être partie des 14%.
Oui. Si je peux dire, quand nous avons accueilli Romain dans l'établissement la première année, il a fallu convaincre, travailler avec les parents. Et je crois que la maman était plus inquiète que le papa sur l'intégration de Romain. Plus confiant, le père plus confiant et presque plus volontaire. Alors je ne sais pas qui dans le couple était peut-être le plus moteur au départ, enfin initialement, mais la maman de Romain était plus inquiète sur sa capacité à s'intégrer, à évoluer positivement dans une formation après la troisième, dans un BEP aussi complexe que la maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Et force est de constater que Romain est devenu quand même un acteur cadrant dans sa classe. Et je voulais revenir sur les exigences des cas comme Romain sur le refus de la médiocrité dans la transmission des connaissances et la volonté d'avoir toujours un enseignement performant, être exigeant. Je crois que Romain est un vivant exemple. Je crois qu'en ce moment, il fait vivre dans son établissement des moments difficiles à ses enseignants, car il est d'une exigence et d'une rigueur et d'une sollicitation pour les enseignants qui, bien sûr, nous interpelle, parce qu'il nous pose question et il a l'exigence qu'il a pour lui-même, il l'a pour les autres. Ce qui amène parfois, je crois, des situations conflictuelles dans son établissement.
Oui, ça pose aussi un problème quand Romain dit qu'effectivement personne n'est venu lui serrer la main. Est-ce qu'une situation normale, c'est la situation où tout le monde vient te serrer la main dès le premier jour ?
Oui, c'est pour ça. Non, mais je connais Romain a un sens très pointu de la justice. C'est docteur justice. Donc il voit ce qui se passe autour de lui, hein, parce que lui, justement, il regarde et il n'est pas enfermé sur lui.
Il observe
énormément ce qui se passe autour. Et donc il a bien vu que les autres se disaient bonjour et que les autres, quand il arrivait pour serrer la main, il faisait non. Romain venait me voir, il était catastrophé par ce type d'attitude qu'il ne comprenait pas. Il a dit, moi, dans mon ancienne école, ça n'est jamais arrivé. Et il ne comprenait pas qu'on pouvait le rejeter comme
aucune
ça.
Aucune loi ne peut imposer une ouverture immédiate et absolue vis-à-vis de quelqu'un qui est différent. Aucune loi.
Et heureusement, parce que alors, ça serait un petit peu stéréotypé, un peu mécanique. Et où serait l'humaine nature ?
Oui, Marie-Luce.
Moi, j'ai envie de dire à Romain que, tu sais, à l'inverse, quand je me promène, enfin je me promenais, surtout quand il était petit, avec mon petit-fils qui est en fauteuil. Donc lui, il est handicapé, il y a une grosse étiquette devant lui avec handicapé, et moi, grand-mère d'handicapé. Eh bien, c'est l'inverse, c'est qu'il y a presque trop de sollicitude. Tu vois, les gens s'arrêtent dans la rue pour dire « Ah bon, le pauvre petit, ah, ben, il est joli, il est beau, il a un joli sourire, ah mais c'est dommage, il est handicapé.
» Je vais évoquer là un souvenir atroce qui est la même chose où j'ai emmené un enfant handicapé à Lourdes. Et tout le monde le prenait en photo tellement il était bien handicapé. C'était absolument
oui,
normal.
Oui, si je puis dire, la problématique du handicap est peut-être accentuée quand le handicap ne se voit pas. Nous avons dans notre établissement un garçon qui est, entre guillemets, extrêmement handicapé. Et c'est l'apparence. Il y a effectivement une pancarte. Il est en chaise. Il a énormément de difficultés de motricité, d'élocution. Il y a eu un temps de latence. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il y a eu un phénomène d'hésitation, de doute et de rejet. Ça a pris 4-5 mois. Au bout de 4-5 mois, l'identification a été faite par la classe. Et aujourd'hui, cette jeune-là est parfaitement intégrée, soutenue. Toutes ces questions, toutes ces problématiques de déplacement, de scolarisation sont gérées par le groupe classe, avec une extrême solidarité. Et pourtant, il a énormément de mal de communiquer comme les autres. Il ne s'exprime pas, il faut absolument avoir un orthophoniste pour traduire ce qu'il dit. En revanche, un autre élève handicapé, moteur aussi, mais dont l'handicap n'apparaît pas, et pour le moment dans une phase de rejet, mais il est rejeté d'une certaine manière, aussi bien par le monde des adultes qui ne le comprend pas que par le monde des étudiants qui ne comprend pas son handicap, parce qu'il faut d'abord l'identifier, il faut le comprendre et pouvoir se représenter ce que ça veut dire son handicap. De prime abord, ça ne se voit pas. Pourtant, le handicap est là. C'est un problème de tumeur au niveau du cou qui est assez grave et difficile à gérer. Et il n'est pas reconnu et accepté en tant que tel. Il va falloir un gros travail de pédagogie, de communication pour faire comprendre. Je pense qu'à un moment donné, le problème de Romain, c'est aussi cela, quelque part. C'est que avoir Romain le premier jour quand il arrive dans mon bureau, je regarde les parents, je dis « Mais attendez, le handicap est assez relatif. Romain s'exprime extrêmement bien, un bon vocabulaire. » Il est pugnace dans ses demandes, il est précis. Pour autant, il a une difficulté à gérer. Il la connaît, ou il faut qu'il la connaisse toujours un peu mieux, mais il a une difficulté. Et pour les autres, ça a été aussi un petit peu il y a ce côté un peu, ça ne se voit pas. Le handicap, pour nous, c'est la chaise roulante, c'est l'aveugle avec sa canne. C'est pas obligatoirement le handicap que nous avons d'ailleurs, nous tous d'une certaine manière aussi, mais qui est plus prégnant, mais qui n'est pas apparent.
Alors juste avant de donner la parole à Ségolène, Romain a une phrase terrible qu'il me dit assez souvent quand il est complètement désespéré et qu'il rentre du lycée. Il a dit « J'aurais préféré être un handicapé en fauteuil roulant qu'avoir le handicap que j'ai actuellement. »
C'est normal, c'est... Parce que un handicap qu'ils voient pas, les gens vont pas forcément comprendre et ils vont dire bah c'est quelqu'un comme nous et voilà, on réagit exactement pareil à un autre. Et s'il y a un handicapé qu'ils voient, d'accord, on va peut-être trop l'aider, mais Il y a des moments où ça va être plus solidaire que quelqu'un qui ne se voit pas.
Ségolène, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, moi pour aller dans le même sens, du coup, puisque moi je travaille les handicapés mentaux dans le domaine plutôt de la culture, on a vraiment ce problème-là, puisque effectivement je travaille surtout avec les enfants handicapés mentaux, que lorsqu'on arrive dans des structures culturelles, parfois il y a des entrées spéciales pour les groupes, déjà pour les groupes normaux, et puis il y en a parfois aussi encore plus spécial pour les groupes handicapés ou autres. Et c'est vrai, quand on arrive avec une classe d'enfants handicapés mentaux, ça ne se voit pas. Et à chaque fois, on se fait arrêter par ceux qui sont à l'entrée et qui ne veulent pas nous croire. Donc parfois, on est même obligé d'arriver avec un papier de l'établissement certifiant qu'on est bien avec une classe d'enfants handicapés mentaux. Parfois, bah, il se trouve qu'on n'a pas le papier Et alors ils nous font toute une esclandre à l'entrée en disant « mais comment ça, ils sont pas handicapés ?» Et tout ça, ils crient bien fort devant les enfants. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où on a en face de nous des gens qui, comme ils ne voient pas le handicap, effectivement réagissent assez mal. Et même dans les musées même, parfois il y a des gardiens de salle qui se comportent très mal, parce qu'effectivement ils ne voient pas que ce sont des enfants handicapés mentaux. Parfois ils parlent plus fort, ou ils bougent beaucoup plus, etc. Donc les gardiens, ils voient juste leurs œuvres là qui sont en péril. Et parfois, ils sont très grossiers et ils s'énervent contre eux, ce qui vraiment est... Après, génère des situations qui sont difficiles à encadrer, on va dire.
Alors, je voulais en revenir, moi, au niveau de, justement, de cette scolarisation des handicapés. On s'est aperçu, au niveau de rapports sur le handicap et l'école, que très souvent, les handicapés ne sont pas scolarisés normalement, non pas par rapport à la sévérité du handicap ou de la perte d'autonomie, mais souvent par rapport au sexe de l'enfant et par rapport au groupe social auquel il fait partie. On s'aperçoit qu'en fait, très souvent, que les enfants de familles d'ouvriers se retrouvent 6 fois plus souvent en institution que les enfants de cadres. C'est-à-dire que les premiers ne remettent pas en question ce qu'on leur dit sur leurs enfants. Ils se disent, bon, il est handicapé, donc il va aller dans un institut spécialisé, alors que les parents cadres, ou ils ont plus d'argent, plus intellectuels, vont chercher justement à pousser leurs enfants le plus possible.
Moi, si vous voulez, moi, je vous dirais que c'est pas obligatoirement un problème d'enfants handicapés. Pour moi, c'est surtout un problème de connaissance des droits, de ses droits, et puis d'intégration dans la société, de niveau de maîtrise de ses droits dans la société. Les gens issus de couches sociales défavorisées ont souvent beaucoup plus de mal à faire reconnaître leurs droits, mais d'une manière générale, c'est pas obligatoirement lié au handicap. Les parents en grande difficulté sociale ne connaissent pas leurs droits souvent parce qu'ils n'ont pas accès obligatoirement au niveau culturel qui leur permettrait de connaître leurs droits. Donc je crois que c'est peut-être un peu accentué, ça peut peut-être être accentué à ce niveau-là parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais sinon je crois que c'est à peu près comme sans doute comme tout le monde.
Non, je pense qu'il y a effectivement, comme vous disiez, une exagération d'un phénomène complètement classique. Ça vaut à peu près identiquement pour la question que vous posiez tout à l'heure sur le rôle de la femme, de la mère, en tout cas dans l'éducation des enfants. C'est une exagération d'une donnée sociale complètement généralisée qui est le rôle de la femme, de la mère en général, dans les questions de l'enfant. Je sais que moi je fais un métier orthophoniste où on est à 98% des femmes. Historiquement, socialement, le métier d'orthophoniste par exemple était un métier... issus de deux lignées. D'abord les infirmières pendant la guerre, qui ont commencé à s'occuper des jeunes hommes qui revenaient du front blessés par balles, suite à la découverte de la mitraillette. Et d'un autre côté, les femmes qui ont généré l'éducation spécialisée de l'enfant sourd, de l'enfant handicapé. Et de ça est issu le métier d'orthophoniste. Alors, bizarrement, on a un métier qui se féminise de plus en plus. C'est vrai qu'aussi, effectivement, on a des situations complètement inverses. Alors moi, j'ai des situations où c'est la mère qui pose le rôle des obstacles, qui pose des obstacles. C'est formidable. Et où le père, par contre, est la personne anxieuse qui va surprotéger. Ça existe. C'est formidable.
Mais par contre, effectivement, pour reprendre le même thème et par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, que les mères sont beaucoup plus... il faut bien voir que la mère, elle est première par rapport à l'enfant. Et que pour certains handicapés mentaux, la séparation d'avec la mère n'a pas pu se faire par le père, classiquement. Bon, on décrit cela comme ça, c'est pas forcément exactement comme ça, mais la mère et l'enfant font un. Et que quand ils font deux, c'est-à-dire quand il y a un savoir du deux chez l'enfant, peut commencer des apprentissages. C'est exactement à ce moment-là. Donc, il faut déjà qu'il y ait eu cette séparation, cet établissement, cette construction d'une frontière entre la mère et l'enfant. Ce qui est une grande question, comment ça se fait, pourquoi, etc. et à quel moment. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'handicapés mentaux qui ont à voir avec ça.
Alors, pour donner les derniers chiffres et juste avant de conclure, en juin 2007, on a dénombré 111 000 élèves en situation de handicap qui sont scolarisés dans le premier degré et 7% dans l'enseignement privé et 44 500 dans le second degré en France. Ce qui veut dire que par rapport à 2004-2005, l'augmentation des enfants handicapés scolarisés normalement a monté à 16%. Est-ce qu'on peut faire encore des progrès, Monsieur Baran ?
Il est clair qu'on a une marge de progrès importante encore. Maintenant, cette marge de progrès nécessitera de passer à un stade supérieur, je crois, de la réflexion. On est passé, depuis 2005, à une situation d'abord, la loi ne s'est pas mise en application immédiatement. Pour nous, chefs d'établissement, elle est apparue, la politique de mise en application de cette loi est apparue, disons, il y a 3 ans. Où ça a été clairement affirmé au niveau de l'Académie de Paris, et ça a été une politique volontariste depuis 3 ans, grosso modo. Bon, maintenant, le deuxième niveau, ce sera de dire, la loi existe maintenant, il faut que nous fassions le point sur sa mise en application au fur et à mesure, que nous découvrons la complexité du problème. Parce que vous allez avoir plusieurs phénomènes, vous allez avoir la concentration parfois dans certains établissements, l'inexistence dans d'autres établissements, c'est très inégalitaire. Les établissements ne se positionnent pas tous en termes d'accueil. Et puis, la caractéristique parisienne de certains types d'établissements sont ouverts à très peu de gens, ou plutôt une élite, et sont très peu ouverts au handicap. C'est pas un hasard si une UPI handicapée mentaux s'est ouverte dans un lycée professionnel et pas dans un grand lycée peut-être parisien, où vous trouvez des structures qui n'existent pas dans certains grands lycées parisiens. Et on trouve toujours le moyen de les installer dans d'autres établissements qui sont... Il y avait un inspecteur de l'académie qui avait une expression assez intéressante, il disait « plus solidaire ». Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui sont très solidaires, et les gens qui sont très peu sollicités pour être solidaires. Et ils n'ont jamais de place pour être solidaires. Bon, ça, c'est une caractéristique de notre académie. Mais ça va sûrement diminuer. Non, la problématique, c'est le phénomène quantitatif va devoir, comme toujours, la massification, on l'a su le faire dans l'éducation nationale. Le problème maintenant, c'est de traiter le qualitatif, c'est-à-dire au cas par cas, et puis d'analyser la problématique de cette gestion de flux, et puis d'avoir un regard, de le traiter non plus cette façon. Aujourd'hui, la loi s'applique, donc on affecte un élève dans un établissement scolaire. La loi s'applique, donc on l'affecte effectivement dans un établissement scolaire, mais on doit définir un process d'affectation. C'est-à-dire, en amont, on prépare le terrain. Et non pas au mois de septembre, on vous dit, voilà, vous avez 35 élèves qui arrivent en classe de seconde, et dans ces 35 élèves, vous découvrez que l'inspecteur de l'académie, vous en affectez 3, avec des handicaps, parfois identiques, parfois différents. À vous de vous débrouiller, à l'établissement de se débrouiller pour les intégrer. Il faut maintenant arriver à une situation qualitative où, en amont, on prépare l'intégration, on informe les enseignants, et puis dès l'accueil, on travaille sur la connaissance du handicap, aussi bien de la part des enseignants, mais aussi de la part des élèves et du personnel qui va avoir à gérer ce handicap. Il faut effectivement se poser le problème de que vit l'élève handicapé, comment se représente-t-il le monde extérieur pour pouvoir comprendre ses difficultés et pour pouvoir comprendre, entre guillemets et quelquefois, ses passe-droits par rapport à la règle habituelle. La problématique, elle est là. Il faut que les enseignants comprennent comment le handicapé perçoit son monde extérieur, perçoit ses apprentissages sans doute, mais il faut que les camarades de classe aussi comprennent pourquoi cet élève handicapé a besoin de tel type d'outils. Il ne voit pas les choses de la même manière. Vous parliez tout à l'heure de la question de l'alcool pour définir une problématique au niveau du cervelet. Il faut aussi imaginer ce que peut voir un malvoyant qui, a priori, se déplace comme nous, alors qu'il ne voit pas du tout les mêmes choses, ce qui veut dire qu'il n'est pas dans la même assurance que nous par rapport au monde extérieur.
Alors, ce que disait Jean Bergès, qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui était psychiatre à Sainte-Anne, pédopsychiatre, qui s'occupait du service d'enfants, c'était la condition pour que ces enfants puissent se mobiliser, être avancés dans leur handicap, c'est il faut absolument que ceux qui s'occupent d'eux leur prêtent une compétence et une demande. C'est-à-dire leur prête. Ils n'ont peut-être pas la compétence, ils n'ont peut-être pas la demande, mais rien ne peut se faire si ceux qui s'occupent de l'enfant ne prêtent pas cela à l'enfant.
Romain, as-tu quelque chose en conclusion que voudrais-tu dire ?
Je ne sais pas, je n'ai pas de conclusion.
Quels sont tes souhaits, tes désirs ?
Être qui est plus handicapé dans des écoles normales. Et puis, qu'on soit mieux accepté, élève comme professeur.
Bien, merci Romain. Et bien voilà, notre débat se termine. Oui.
Moi, j'aurais volontiers ajouté que je crois que tout ça, tous ces problèmes d'intégration, ils passent par une meilleure connaissance de tout un chacun et de tous ceux qui ne sont pas confrontés au handicap. Et ça, il y a un travail énorme à faire quand on entend les questions des gens qu'on côtoie. Par rapport au handicap, il y a une méconnaissance totale dans le grand public de ce qu'est le handicap, de ce qu'il peut toucher tout le monde, du jour au lendemain. des accidents d'accouchement, il y en a beaucoup, et de la façon dont on peut se comporter, dont on doit se comporter pour justement qu'il y ait égalité et que les handicapés puissent avoir une vie la plus ordinaire et être acceptés et qu'on serre la main aux handicapés.
Bien. Bon, le temps imparti est terminé. Je vous remercie tous d'être venus. Cela a été très gentil de votre part. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Et à très bientôt pour un prochain débat, l'art contemporain et le narcissisme. Au revoir. Autre Radio, Autre Culture.